tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com. Chouette, 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 indirect.
Le 13-30, un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure. En direct sur Radio Grenouille, à 13h30.
88.8 FM. En direct.
FJ, au sang, est poète. La mort, ce continent de notre corps, où la vie ne se remémore plus quelle force la hante. Écorce de cendre, descente au tombeau, génération néant, au bord de l'aurore, le ciel éteint, les 59 jours. FJ Haussan est fondateur de la revue C, 1977-1979. FJ Haussan est cinéaste.
No place for me. A wasted girl. I buy or die.
You buy a wasted girl?
Si j'achète? J'achète you. Si, j'achète.
Combien?
100 livres, 1000 dollars, 10 000 yens. Je m'en fiche. Je paye cash. J'ai hérité de Buenos Aires. Marque, pesetas, French francs. Je hais les mensonges dans l'amour. I buy or die. Plus le temps de séduire, on simplifie le programme. On se parlera juste pour se dire adieu. Come on, on est pressé.
Ok. Let's go.
FJ Haussan est cinéaste. L'affaire des divisions Morituri.
Les deux ne payent pas.
Le trésor des îles Chien. Docteur Chance. Darmagans.
J'adore qu'on m'achète. Cher, je t'adore.
J'ai besoin de chance.
FJ Haussan est musicien, chanteur, punk, fondateur du groupe DDP, de la destruction pure, et du groupe MKB, fraction provisoire.
And now, this is Dada Rock'n'Roll Guerrilla.
FJ Haussan mélange les genres, cherche un cinéma insurrectionnel. Il est à Marseille, entre Artaud, né à Marseille, et Rimbaud, mort à Marseille.
Indestructible ! Nous sommes indestructibles ! Indestructibles !
FJ Haussan a pour compagnon de route W.S. Burroughs, William S. Burroughs, Céline, Eisenstein, Murnau, Godard, les Stooges ou les Sex Pistols. FJ Haussan est à Marseille et il est dans les studios de Radio Grenouille. Il est invité par Alpha Bévy, Colette Tron, dans le cadre du centenaire William S. Burroughs.
Oiga, amigos. Oiga, amigos. Paco, Enrique, last words of Hassan Saba, the old man of the mountain. Listen to
FG100, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être venu dans les studios de Radio Grenouille.
Ah bah c'est un grand plaisir.
En ce moment, on entend la voix de William Blues, non ?
Oui, oui, je crois reconnaître, c'est pas dans Nothing Now But Recordings ?
Exactement.
Ça, c'est un disque qui m'a trouvé le cerveau et qui a été sorti. Alors, je recommande absolument à tout le monde de se procurer ce disque. Qui a été publié sur Industrial Records, le label de Strumming Gristle. Et donc, c'est une compilation d'archives sonores de William Burroughs, faite par lui-même et Jesse Spurridge.
I bear no sick words, junk words.
Un beau jour, William Seward Burroughs est venu distraire l'attention que l'on portait en pure perte à l'immanence du monde. Rien ne se gagne, ni se perd. Rien ne commence. Ni fini. William Burroughs, c'est une rencontre très tôt, non ?
Oui. Disons, quand on compile les stocks de munitions pour une vie, au temps de l'adolescence, donc Arto, Céline, Burroughs, Debord, enfin tout ça, quoi.
Un accident de moto aussi.
Oui, j'ai eu un accident qui a arrêté ma carrière de futur pilote motocycliste, puisque j'avais pas le permis, donc j'ai eu des tas d'ennuis. Enfin, et j'ai muté psychiquement.
Vous avez écrit un livre autour de William Burroughs ?
Oui, un petit livre qui s'appelle W.S. Burroughs versus Formule Mort, qui est sorti dans cette collection donc de Jean-Michel Place, où donc c'est pas du tout des textes universitaires, c'est plutôt des textes d'humeur comme ça, d'affectif pur, si on peut dire.
Disons votre William Burroughs.
Voilà. Et ensuite derrière une petite anthologie de quelques pages pour favoriser l'entrée dans l'œuvre, qui n'est pas si facile que ça quand on ne connaît pas, quoi.
Vous avez donné une lecture à l'odeur du temps et on a pu entendre, notamment dans les cut-up de William Burroughs, le métro blanc, on a pu entendre quelque chose d'Arto, quoi.
Ah oui, c'est justement, j'ai choisi 2-3 passages dans le livre, dans la partie anthologique, des textes de cut-up qui sont des prodiges de sens, je trouve, d'immédiateté, de paroles qui dépassent toute police idéologique.
Il y avait aussi, parce que vous avez créé une petite anthologie des textes de William Burroughs,
oui.
Disons les textes qui vous affectionnent particulièrement,
oui.
Non ? Et je crois que vous avez choisi une lettre à Allen Ginsberg.
Ah, une lettre du Yagé.
Ouais.
Ben oui.
Vous vous souvenez de cette lettre ? Peut-être qu'on pourrait la trouver dans ce petit livre de William Burroughs.
Ah, je me souviens plus. Je sais que je l'ai dans le dans ma compilation, mais
on va la retrouver. Les écrivains sérieux sont ceux qui ont dépassé l'idée de l'art et considèrent l'écriture comme une arme avec des revolvers braqués. Voici venu le temps des assassins, William Burroughs. Une lettre prise au hasard à Allen Ginsberg dans ce recueil William Burroughs, édité aux éditions Bourgeois. Bourgeois éditeur, pardon. Cher Allen, voici la nouvelle en question. J'en ai pas grande opinion, mais j'ai continué à l'écrire sans pouvoir m'arrêter. En fait, je suis profondément découragé par ce qui est d'écrire à l'heure actuelle. Je vais m'atteler à la frappe du roman que je t'enverrai chapitre après chapitre. Pas d'autres nouvelles. Burroughs, c'est un peu le daddy punk, avez-vous dit un jour.
Oui, parce que c'était un peu, autant, disons, Ginsberg a été plutôt un peu le père des hippies, disons, toute une génération, c'est comme ça, a été un peu inventé par William Burroughs à travers Les Garçons Sauvages et Wild Boys. Et donc, oui, c'était Daddy Punk.
Il est donc, du coup, celui qui a inventé une nouvelle génération.
Oui. Absolument. C'est-à-dire qu'il disait, oui, j'ai jamais été tout à fait convaincu qu'on pouvait combattre les flingues avec des fleurs. Ça, c'est l'idée d'Allen.
Les écrivains n'écrivent pas. Ils lisent et transcrivent. Vous qui écrivez, vous écrivez alors ?
Sometimes. Oui, ça c'est dans les journaux de retraite, c'est un petit, je reconnais le passage là, un livre qui est formidable, c'est-à-dire qui, je crois qu'il n'est pas réédité, qui s'appelle Apuk, et là, qui est extra, qui est, où il y a trois textes, il y a une espèce de séquelle des Garçons Sauvages, puis il y a trois ou quatre volumes finalement, et puis il y a justement les journaux de retraite, où il fait retraite, et on l'explique qu'il ne faut pas de machine à écrire. Il dit, oui, mais un écrivain, il peut pas, il faut qu'il puisse tout le temps écrire.
Et le temps des assassins, c'est un texte quoi, que je crois que vous affectionnez aussi particulièrement.
Mais, c'est-à-dire que c'est le texte qu'on a eu l'immense honneur de publier dans le dernier numéro de la revue C, la première fois en français, quoi. Dans le numéro 7, donc. Et le temps des assassins, qui est un long texte de William Burroughs, qui... un plaidoyer en faveur de la libéralisation des drogues, tellement ce commerce alimente toutes les mafias et profite évidemment à la prise de pouvoir de d'engeance tout à fait ténébreuse sur tout le monde de la politique, de l'économie, et qui est extrêmement visionnaire, parce que je crois qu'il y a peu de temps, le chiffre d'affaires des toxiques a dépassé celui du pétrole.
On peut parler un petit peu de la revue C, cette revue C 1977-1979, qui a été rééditée dans une édition qui s'intitule Le Feu Sacré, hiver sur les continents cernés.
Ah bah c'est juste la compilation de mes textes que j'ai écrits pour la revue. Bah c'est une revue qu'on a créée donc en 77 à Toulouse, à l'époque j'étais à Toulouse, et qui a duré jusqu'en 79, quoi, le temps de 7 numéros. Et qui était à la fois, comment dire, une tentative d'appropriation d'écriture, oui. Et en même temps, c'était les années punk, quoi, c'est 77. Parce que finalement, le punk, il y avait la musique, qui était un peu un prétexte d'ailleurs pour mettre le poison dans la machine. Et puis, il aurait pu avoir... ce qui, finalement, avec le temps, s'est développé, mais la dimension des plasticiens, les performeurs, les écrivains, enfin voilà. Quoi.
Il y avait, entre autres, Jean-Christophe Bailly, qui a participé à cette revue, Bernard Noël, vous, évidemment. Ça fait du monde.
Il y a eu, dans presque tous les numéros aussi, on a publié des textes de Stanislas Rodansky.
Tout à l'heure, on a écouté un peu les Stooges.
Ah oui.
Je crois que c'est une musique qui vous a marqué, ça, les Stooges.
Ah oui, qui a beaucoup marqué mon adolescence. Disons qu'il y avait, bizarrement, quand j'avais 15-16 ans, il y avait trois trucs, c'était les Stooges, le Velvet et Roxy Music.
Et c'est ça qui a amené à de la destruction pure ?
C'est-à-dire que de la destruction pure, c'est un espèce de petit texte manifeste de 77, quoi. Et en même temps, après, on a fait le groupe, c'est appelé DDP, de la destruction pure. Ça faisait différence de potentiel, en fait, tout ça.
Vous êtes venu avec un très beau vinyle, rouge et noir. Et on va écouter un extrait, Claude Pellieu, Was Here. Et on en reparle un petit peu après, si vous voulez.
D'accord.
Claude Pellieu was here. Son jet scratché à basse altitude sur le Walala. 24 décembre 2002, signale la boîte noire de Norwich. Ceci est un poème radio-balise carbonisé. L'appel désespéré d'un monde, image trouée de nuit. Poème atoll de métal et de sang. Nous y sommes, c'est-à-dire nulle part.
Alors, Claude Pellieu, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, oui, ben, disons que donc Claude Pélieu, c'est un grand poète français qui est né en 1934, qui est mort en 2002 et qui est un peu le passeur de la Beat Generation en France. En fait, c'est non seulement le passeur, mais c'est le seul français, disons, de la Beat Generation, puisque juste à la fin de la guerre d'Algérie, il s'est enfui de France et il est parti vivre aux États-Unis, où il a été un petit peu adopté par Ginsberg, Burroughs, etc. Et donc il est parti avec Mary Beach, qui était d'ailleurs la cousine de Sylvia Beach. Sylvia Beach, qui a été l'éditrice de Ulysse de Joyce à Paris. Et donc il a traduit beaucoup, beaucoup de livres pour Bourgois, de Burroughs, de Ginsberg, etc. Et lui-même est l'auteur d'une trentaine de livres. Et donc on était très amis, on a fait un numéro. Le numéro 6, c'était autour de Pélieu, qui avait d'ailleurs changé de nom à l'époque, c'était Claude P. Washburn.
Opale, ne demeure pas dans ce ciel d'os que je hais, comme je hais tout ce que j'écris.
Burroughs, je pense qu'il a dû aussi vous amener à quelque chose du cinéma d'aventure.
Georg est incroyable, un vrai pharmacien. Toujours à la recherche du vrai mélange. Le K-128 fait miracle. L'endroit où on part.
Tu vas avoir mal.
C'est notre race, la fatigue, l'usure de tous les charmes, l'acier dans ma tempe, le poison dans ton ventre. C'est comme les $9,000 de Fanzi.
Je suis comme ça, tu n'y pourras rien. Les $9,000, ce n'est plus pour te vendre, tu vas en avoir besoin. C'est pour t'acheter ou faire que tu m'oublies. Prends-les et prends-moi comme je suis. Commence la première.
C'est Isolde qui dit que vienne l'amour. Tristan dit que vienne la mort.
C'est un extrait de Dr. Chance.
Voilà, Docteur Chance, oui.
Ouais.
Avec Pedro Echen et Joe Stromer, qui tous les deux sont plus de ce monde. Voilà.
On peut dire de votre cinéma qu'il se tient entre le cinéma d'action et le cinéma de propagande. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la partie action, ce cinéma très américain?
Disons que au début, quand j'ai commencé à essayer de faire des films, je suis rentré un peu à l'école par hasard, puisque à 23 ans, je savais plus quoi faire entre la poésie et le rock and roll. Donc j'ai passé le concours et il me semblait que l'énigme du cinéma gisait entre le cinéma de propagande et le film d'action. C'est-à-dire que si on savait faire des scènes d'action, on pouvait faire des scènes d'amour, des scènes d'exposition. Enfin. Et personnellement, j'ai toujours été attaché au genre cinématographique. Ils sont encore quelque chose de fort. Ils sont comme des véhicules. Et suivant qu'on décide de faire un film d'aventure, un film noir, un thriller, un film fantastique, l'itinéraire est différent. Et la vitesse de déplacement est autre, disons. Un petit peu comme les genres étaient actifs à un moment dans la poésie, disons. Selon qu'on écrit une ode, une élégie, des sonnets, c'est pas la même chose, quoi.
C'est toujours un extrait de Dr. Chance qu'on entend. Alors quoi, vous injectez dans les films quelque chose, une pulsion de vie que le monde ne nous donne pas?
Oui, oui, la vie c'est quelquefois la mort. Oui, puisque le groupe qu'on entend là, c'est un super groupe belge qui s'appelle La Muerte.
La poésie et le cinéma, qu'est-ce que ça a de commun?
Disons que c'est un peu l'exact opposé. Puisqu'en fait, la poésie, c'est finalement une espèce de relation passionnelle avec sa langue maternelle. Alors, au contraire, le cinéma, c'est plutôt une prise de proie solaire, comme ça. Enfin, c'est la langue de Babel, le cinéma, au contraire. Alors, même si ça parle allemand, ou anglais, ou chinois, mais enfin, c'est d'abord des films entre le son et l'image. Et c'est vrai que, comme les groupes de rock and roll, pour un peu qu'on ait le basique des sous-titres, le film peut être aussi facilement accessible en Asie qu'en Europe, qu'en Amérique du Sud, disons.
On écoute encore un peu de musique de Dr. Chance.
Like a deflated balloon. Your cool hands on his naked dollars, baby.
Who is speaking? Gorgo voices. Crackling paper without names. Went out in green electric shocks. Dreaming dreamer lying there. Blessed be he who spares galaxies.
Disparaître en vol pour montrer que le ciel existe. L'espèce humaine s'arrête. Si elle continue, on dira que c'est sa faute. Tout recommence.
A girl, she's a drag, she gave us a final cut. En finir avec l'usure de tous les charmes, quand tout s'arrête et rien ne change, défenestrer la drame de l'origine. The chance is a girl and she's a drag. She gave us a final cut. Well, well, some fucking girls lost in the city. That was hell, but our destiny.
Le cinéma, c'est un voyage immobile, MJ au sang.
Oui, effectivement. Dans l'obscurité. Et puis des cosmos.
Pourtant, vous êtes parti en Amérique du Sud, je crois, pour ce film.
Oui. C'est-à-dire que oui, je dis, quand j'aime le voyage, on fait des films. Oui, ce film, je l'ai fait au Chili, oui, Dr. Chance. J'ai fait presque tous mes films à l'étranger, mais en français. Puisque j'ai fait Les Chiennes aux Açores au Portugal, j'ai fait Dr. Chance au Chili. Après, je me suis retrouvé Silencio au Portugal. Puis deux courts-métrages à Vladivostok, et puis je suis revenu aux Açores pour Darmagans.
Je disais donc un cinéma qui se tient entre le cinéma d'action et le cinéma de propagande. Tournons-nous un petit peu du côté, par exemple, de ce que pourrait être le cinéma de propagande.
La dernière énigme, un film Strax 16 mm, noir et blanc, tournage synchrone de FJ Ossan.
Ce sont les premières images, FJ Ossan.
Oui, c'est le tout premier film que j'ai tourné en une journée, en février 1982. C'est-à-dire que juste quand on rentrait à l'école, il y avait ce qu'on appelait le film track. Et donc on avait une bobine de pellicule pour et moi je l'ai interprété du point de vue du film tract. Et donc ce qu'il y avait pour le générique, j'ai utilisé pour des intertitres. Donc j'ai quasiment utilisé tout le métrage pour le film qui fait 12 minutes.
Qui me fait penser aussi à tous les cinémas tract de Godard aussi.
Oui. Et ça a été assez curieux parce que c'est comme ça, un cinéma un peu en poudre, trash. Puis c'est un film en fait très inspiré, enfin oui, qui est librement inspiré du terrorisme et de l'État de Gianfranco Sanguinetti, donc qui était de la section italienne de l'IS. Et étrangement, alors que j'étais avant l'école très, très marqué par Révolution électronique de Burroughs, tout ce qui était détournement, piratage, vidéo, plus, je me voyais beaucoup plus. Et de toucher de la pellicule, même 16 comme ça, hein, eh bien, j'ai été contaminé par le virus argentique.
Et la critique, disons, sociale est présente tout au long de vos films, comme par exemple dans Division Morituri.
Oui, l'affaire des divisions Morituri, c'est à la fois un film de... C'est Police and Thieves, de gendarmes et de voleurs, de gladiateurs. Oui, c'est plutôt un péplum du quart monde, un péplum futuriste du quart monde.
Note à l'intention de Maître Bertrand, avocat à la cour et défenseur de Bruce Satarenko, pour le procès des divisions Morituri. Puisqu'il est question essentiellement du gladiateur Ettore, nous lèverons un nouveau pan sur l'obscurité du personnage. Avant d'appartenir aux divisions Morituri, Ettore fut partie prenante dans l'affaire allemande. Autrement dit, dans la guerre que se livrèrent la RFA et la RAF entre 1967 et 1977. Que ce procès ne soit pas celui d'un ou de plusieurs individus, mais du monde qui a confié la gestion de la violence à certains pouvoirs étatiques, en désarmant chaque jour un peu plus une classe sociale en train de naître, de renaître en Europe une sorte de nouveau lumpen prolétariat.
Il y a ces mots qui sont présents, ces phrases qui frappent, qui sont présentes tout au long de vos films. Et puis il y a aussi l'art du slogan, l'art de la formule et le carton, comme dans les cinémas muets.
Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec le temps que j'ai pris conscience que j'étais tellement marqué par le film muet, en fait. Parce que c'est vrai que dans les grands films muets, mais il n'y a pas que les grands chefs-d'œuvre d'avant-garde comme Eisenstein, et même des films, par exemple, les films de Garbo, les plus grands, c'est les films muets. Mais en fait, dès qu'il y a de la musique, les films vont à 2000 à l'heure. C'est vrai que les films du Norvin, par exemple, comme La Grève, racontent plus de choses que des films de 3 heures aujourd'hui. Parce que c'est une... Et puis c'est intéressant parce que c'est la rupture avec le noir. Enfin, le noir, c'est... Je ne sais plus qui disait, ce qui est important au cinéma, c'est le noir. Soit l'interimage entre chaque image. Et dès qu'on fait du noir, on crée une rupture narrative, on change de réseau en quelque sorte. Alors suivant que... Alors bien sûr, il y a le son aussi qui opère. Suivant que c'est le son d'avant, le son d'après, un nouveau son... Et
les cartons de texte, oui, donnent aussi une polyphonie au film. C'est une sorte de voix supplémentaire ou d'autres voix.
Oui. Puis c'est curieux, parce qu'aussi il y a la dimension graphique, c'est-à-dire qu'un mot qui est dit ou un mot qui est écrit, ben c'est puis même il y a presque une dimension d'abstractisation presque du mot quand c'est énorme. Enfin, ça aussi, bien sûr, ça vient aussi de la propagande, puisqu'en fait Eisenstein était d'abord affichiste. C'est vrai que l'affiche de propagande, autant l'affiche de publicité c'est l'image, autant l'affiche de propagande de droite ou gauche c'est le caractère, le slogan.
J'ai pensé à Assad, à Guy Debord.
Ah oui.
J'ai pensé à Guy Debord en regardant vos films, mais Guy Debord a pensé à Assad, Hurlement en faveur de Assad, qui est un film assez radical de Guy Debord.
Ah oui. Noir et blanc.
Noir et blanc, un film blanc.
Oui, et noir.
Et noir.
Oui, parce qu'il y a une bande blanche, une bande noire. Et c'est le tout premier film de Guy Debord.
On n'aura pas été aussi loin dans le cinéma.
Les films de Debord, c'est vraiment... c'est un bloc... En fait, ce sont Debord et je pense le plus grand penseur d'après-guerre. Quoi.
Et que depuis 4 ans, on n'en aura point eu de nouvelles, les partis intéressés pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance afin que l'absence soit déclarée.
L'amour n'est valable que dans une...
À quoi bon un cinéaste en temps de manque, F.J. Hausson?
Eh bien, c'est ce que j'essaye de... au départ, c'était un peu une gageure, puisqu'en fait, c'est un détournement ou un prolongement d'une phrase de Hölderlin, qui disait « À quoi bon des poètes en un temps de manque ?» et d'ailleurs qui avait été à l'origine d'une anthologie comme ça de Jean-Christophe Bailly, qu'il avait fait, je crois, en 78, qui s'appelait « Wozu Dichter, Dichter in Durstiger Zeit ?» Wozu, à quoi bon, why? Et donc, qui est une très belle anthologie qui avait été publiée au Soleil Noir. Et donc, quand on m'a demandé de faire un livre autour du cinéma, là, donc ce livre qui s'appelle Mercure Insolent, mais qui est plutôt, disons, cinématographe et poésie active, en quelque sorte. Parce que c'est vrai qu'il y a une puissance de poésie, vraiment, dans le cinématographe, quoi. Et ce que je rappelais hier soir, c'est que c'est quelque chose qui s'est perdu, mais c'est incroyable la collaboration qu'il y a eu entre tous les grands poètes qu'on pourrait dire d'avant et le cinéma d'avant-garde. Quoi. C'est l'âge d'or du muet, où on voit Antonin Artaud, Roger Gilbert Lecomte, Desnos, Sandrard, qui sont vraiment sur le front du cinématographe. Quoi.
Ce qu'évoquent toutes ces questions lourdes de pressentiments nous impose à présent d'envisager comment, jusqu'à ce jour, si ce n'est même pour tout avenir, l'influence de Socrate s'est étendue sur la postérité comme une ombre grandissante le soir dans le déclin du soleil, et comment elle n'a pas cessé de contraindre l'art à un perpétuel renouvellement. L'art, il est vrai, est empris ici en un sens déjà métaphysique, dans son acception la plus large et la plus profonde, lui assurant, parce que sa portée est infinie, une existence elle-même infinie.
Le conformisme au cinéma, aujourd'hui, vous allez encore au cinéma?
Ben c'est un cancer, hein. Et ça, il y a d'avoir la peau de ce pauvre vieux cinéma.
Oui, parce que... Finalement, est-ce que on aurait pu imaginer que le punk, le rock viennent contaminer le cinéma, viennent le faire naître à nouveau, et puis en fait, finalement, non.
Enfin, si, il y a quand même une génération qui est un peu la mienne, quoi, qui est assez intéressante. Je trouve que ce soit des Coris Marquis, des Jim Jarmusch, dans différents pays. Mais c'est vrai qu'ils ont, tout en ayant vraiment réussi des œuvres considérables, quoi. Mais, oui, disons que même, quand j'ai commencé à m'intéresser à la possibilité de faire des films, j'ai commencé moi en fait par la vidéo parce que j'étais pas très photographie, hein, mais vraiment j'étais fasciné par l'image mobile, quoi. Et donc le truc, c'est de faire rentrer la réalité dans deux dimensions. Bon, maintenant c'est 3D, mais déjà le 2D c'est compliqué. Et il y avait tous ces groupes comme Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, Tuxedo, qui me semblaient être des partitions de films à venir, quoi. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans la première époque des films des années 80, quoi, les Cours et Morituri. Et oui, puis je sais plus, je me rappelle quand on était avec Elnaud, je préparais. Pour lui expliquer vraiment. Moi j'adore La Grève d'Eisenstein, j'aime tous les films de Sa Majesté Eisenstein. Mais particulièrement La Grève, et je mettais à fond les Sex Pistols, et ça marchait impeccable. On regardait le film en nuit, puis...
Mais d'ailleurs, quand le testament du docteur Mabuse, oui. la musique d'ouverture, c'est
assez, assez démentiel. Toute la scène d'ouverture, c'est la musique industrielle avant l'heure, quoi. C'est prodigieux, oui.
Vous allez loin?
Je vais aller tout droit. Et puis voir. J'ai mis le feu à la maison de la mort. Et je roule. Rien ne retient plus mon sang.
Nostalgie.
tears are shining down upon my sorry head. And in the morning I will be gone and leave you here for dead. I said I've had enough of all your vicious lies. Your heart's as black as sin and this grudge is in your eyes. I'm leaving you.
Lorsqu'un monde n'est plus en mesure d'articuler l'image qu'il produit de ses réalités, alors ce monde n'existe plus. Lorsqu'un monde n'est plus en mesure d'articuler l'image qu'il produit de ses réalités, alors ce monde n'existe plus. Non seulement il ne saurait être question de la réalité spirituelle de ce monde, mais non plus de sa représentation matérielle. Un tel monde n'existe plus. Ces éléments de représentation, aussi résiduels qu'ils puissent être, doivent être purement et simplement détruits. C'est un extrait de « Descente au tombeau », un texte de vous, FG Ossan.
Ah oui, je me rappelais plus que ça racontait ça.
C'est un livre qui a été édité aux éditions Blockhouse. Elles existent toujours, ces éditions?
Je crois, non, ça n'existe plus. Mais c'est un petit texte que j'ai publié en 92, et qui en fait a un peu, je disais, c'était un petit peu la boîte noire générique du Trésor Zilchen, en fait, qui est ensuite, le scénario relève très peu de ça. Mais il y en a un peu question.
Oui, parce que chez vous, les titres des livres ou des phrases passent dans les films, et dans les films, dans les livres, et dans les chansons,
bah, ça oui, circule. Je disais en rigolant, parce que je me disais, oui, vous faites plus... Parce que c'est vrai que ça ne fait pas très sérieux. Vous faites quoi? Du rock'n'roll? Vous êtes écrivain?
Qu'est-ce
cinéaste.
Que vous faites, quoi,
hein? Eh bien oui, je dis, écoutez, quand je ne peux pas rentrer par la porte, je rentre par la fenêtre.
J'ai trouvé un livre qui s'appelle « Le ciel éteint ». Celui-ci, on ne le trouve plus, hein. Je sais, mais il n'y a même pas l'éditeur.
C'était une petite boîte qui s'appelait la Notonect, en Bretagne. Ça, c'était chez les Basques, l'autre en Bretagne. Et je crois qu'ils ont publié que Pellieu et moi-même.
Et par exemple, je peux lire ceci. « Plus tard, je regarde autour de moi, et dans le fond de mes pensées, j'ai perdu 1000 ans. Où commençait l'histoire? La littérature n'a plus de visa à offrir, de forme à prêter. La musique ne compte plus. Les films sont morts, semences, poussière.
Quand on a raté l'histoire, même l'éternité pue.
FJ Ossan, est-ce que le mouvement punk est avorté?
C'est-à-dire comme disait Rotten en rigolant, en empochant 3 millions de francs, je crois, pour faire un concert en 96, il disait « On vous avait prévenu il y a 20 ans, no future !» The act became real.
Dans le livre Mercure insolent, qui est donc fait publier à la Fabrique du Sens, vous semblez aussi désespéré finalement de la disparition de l'utilisation de l'argentique, de la bande, et que le numérique semble vous ennuyer profondément, non?
Mais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé le film comme ça en Corée et en Russie, là, et je réalisais, disons que c'est quelque chose qui m'a sidéré, quoi, qu'il puisse y avoir une éradication de l'argentique, enfin, je veux dire, quand même, qui a fait le cinéma pendant plus d'un siècle, et qui est une expérience fondatrice et unique, qui remonte sans doute à quelque antiquité solaire, je crois. Et c'est vrai que, mais bien que j'adore la vidéo, par exemple, mais que comme ça, on puisse supprimer par cupidité industrielle tout le cinématographe, ça me sidérait. Donc je parle un petit peu de tout ça et je remonte aux sources pour retrouver la force, parce qu'il faut savoir bien détruire pour recommencer aussi.
Dans votre cinéma aussi, vous travaillez beaucoup les iris. Est-ce qu'on peut en parler pour les auditeurs? C'est le noir rond qui referme l'image et qui la réouvre. Ah oui, alors, tout ça dans le cinéma aussi muet.
Alors l'iris, oui, c'est un procédé qui a vraiment existé dans le cinéma muet. Parce que je trouve que dans les grands films, on voit des images qui n'existent pas. Alors je me souviens de, je crois que c'est Intolérance de Griffith, et j'avais l'impression qu'il y avait comme ça une ouverture. Oui, parce qu'en fait l'iris, c'est une lentille, comme ça, ça s'ouvre, et c'est circulaire, et on peut refermer. Et donc par exemple, dans un plan, on va vous voir par exemple en plan américain, on peut n'ouvrir que sur la main. La main qui écrit, par exemple. Et on peut combiner ce système avec des travelling, avec avec toutes sortes de trucs. Et ce qui est étonnant au cinéma, c'est que, pour revenir, c'est ce qui compte, c'est le noir, c'est qu'on ne voit que ce qui est, que ce qui est montré. C'est-à-dire que si, même si l'écran fait 30 mètres de long et qu'il n'y a qu'un mètre sur la main, c'est quasiment l'équivalence d'un gros plan sur la main. Enfin,
Et puis il y a quelque chose aussi d'un œil qui apparaît. Oui. Comme si nous étions, observateurs, voyez, de la scène.
Oui, voyeurs, ou dans voyeurs, des tunnels, oui. Dans des... Oui, puis à la fois ça perturbe la matérialité du point. Enfin, je veux dire, c'est vraiment chouette.
Hector. Je m'appelle Hector, né le 7 août 1956. Ci-devant, la salle à combattre à visage découvert.
Nous appartenons aux fameuses divisions Morituri. Nous sommes du sud.
De l'extrême sud.
Une terre enfermée dans la terre. Une terre enfermée dans la nuit.
Ici, l'on débute toujours le visage masqué. Et l'on meurt de même. À moins d'avoir gagné la condition d'immortel.
Comme votre serviteur. La loi demeure cependant la même. Haïr, haïr, haïr. Sans visage, haïr. Sans visage, attendre quand nous se lève l'heure des bêtes de la nuit. Haïr, haïr, haïr. Et sans visage, descendre sur l'arène. Haïr, 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 sans visage. Écoutez, j'entends les cris des barrières. Tous mêlés, tarés la Jet Society. Putes, dealers, pédés, tous sont descendus sur le théâtre. Entendez, toute la folle de l'usine de la mort. Tous, ils attendent le miracle.
Ça a l'air très punk comme ça, ce cinéma. Ça l'est d'ailleurs. Et pourtant, c'est un film c'était votre premier film d'études à l'IDEC ex-La Fémis. Il y avait des punks à La Fémis.
J'étais un peu le seul, disons que... Mais alors c'est curieux, parce que, autant à Toulouse, j'étais vraiment, c'est période plutôt Strobing Grisel, puis quand je suis arrivé à Paris pour l'école, j'ai rencontré les Lucrate Milk, et ça a été comme ça... D'ailleurs, on a fait un split album, une face, et donc il y a Lucrate Milk, et ils avaient quand même... Ils étaient tellement sublimes dans le vécu qu'on est redevenu punk, quoi. Et donc, on a fait ensemble l'affaire des visions Morituri. Et. En fait, à l'idée qu'ils m'ont foutu la paix, enfin, l'administration, parce que. Un grand critique américain. Et puis, Jacques Tati avait dit foutez-lui la paix, il est vivant, pour une fois qu'il y a un vivant dans les couloirs. Donc, je prenais le matériel, je le rendrais à l'heure. Les projections, les autres avaient la crête, mais bon, on était disciplinés quand même.
Ils n'ont pas eu quelques frissons?
Non, non.
C'était un, j'ai cru comprendre aussi que ça faisait un peu la promotion du chaos, parce que vous étiez quand même quelques-uns.
Nous étions des professionnels.
Quelle est cette Anderson?
Darmagon.
Qu'est-ce qu'on fait ici?
Qu'est-ce qu'on fait ici?
Je suis là pour les mêmes raisons que toi.
Avec F.J. Haussan, poète, cinéaste, chanteur punk. C'est un extrait de d'Armageddon qu'on entend, votre dernier film.
Oui, oui, donc c'est un morceau des Cramps que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs une reprise de d'un morceau de jazz cubain, des, je ne sais plus comment l'origine. Et j'aime beaucoup ce morceau et c'était aussi une façon de rendre hommage. J'ai tellement aimé les Cramps. Et donc Lux Intérieur était mort et donc tout naturellement. On a mis ce morceau dedans.
Et c'est un retour au noir et blanc aussi, par rapport à Docteur Chance.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu de noir, un peu de couleur, et du noir et blanc, oui. C'est-à-dire que voyant que l'argentique disparaissait, je me suis dit, ah. Et en plus, Kodak nous a fait des prix sur le noir et blanc, et... Non, le noir et blanc est très très intéressant, comme... je crois d'ailleurs que c'est Grac qui dit, en gros, le cinéma, ça se fait en noir et blanc et en muet. Après, on peut rajouter de la couleur, du son. Et c'est vrai que le noir et blanc permet de déterritorialiser. C'est l'instrument parfait, disons, pour faire les portraits. En fait, je veux dire, c'est vraiment la croix du regard. En fait, c'est le, que ce soit aussi bien les acteurs que les paysages, que ça... D'un seul coup, Marseille est sœur de Vladivostok. Ce qui est incroyable, c'est que Vladivostok et Marseille, je crois, sont à même latitude. Sauf qu'à Vladivostok, il fait 27 en été, comme à Marseille, mais en hiver, il fait moins 27.
Vladivostok, c'est un petit court-métrage aussi que vous avez réalisé.
Voilà, mais c'est parce que, oui, en fait, j'avais été invité au festival, et puis, pour faire un petit film avec des jeunes russes, et, sur un argument comme ça, et alors, donc j'ai fait l'espèce de portrait comme ça. Alors j'ai dit, oui, on peut tourner en numérique, il y a très peu de... Je dis, non, non, non. Et donc ils ont fait venir de la pellicule Super 8 noir et blanc. Et puis je suis tombé vraiment en amour de l'amour et de l'eau souris, puisque c'est deux grands fleuves qui se retrouvent là, à Vladivostok. Et ça m'a... Mais... Et donc je suis revenu un mois plus tard avec Guy McKnight. Et j'ai fait le film que j'avais déjà fait avec Gleb Telchov en Super 8, hein, le Vladivostok. Et on a fait Ciel éteint, qu'on a tourné à Frontières d'hiver, fin novembre, décembre, avec Guy McKnight, le chanteur de The 80s Matchbox Behind Disaster, dont on a entendu tout à l'heure en morceau. Et puis finalement, on s'est retrouvés tous les trois, avec Elvire aussi, aux Açores, avec Gleb Telchov, from Vladivostok, Guy McKnight, Elvire. Aux Açores, pour Darmagon. We'll be right back.
Évidemment. J'aimerais tourner un film aussi vite que possible, tout remettre en jeu. On vous a raconté les risques et périls que ça comporte, pas seulement bancaire mais vital, FJ au sang. On vous l'a raconté les risques que cela comporte.
Oui, disons que chacun des films que j'ai fait, j'aurais pas pu le refaire au film suivant. Disons que je sais pas comment ça s'est fait, mais j'aurais été incapable de faire Morituri sur le plan physique quand j'ai fait Les Chiennes, de faire d'endurer. Donc, pour moi, ça a quand même toujours été des entreprises qui jouaient avec la limite physique aussi.
C'est corporel, le cinéma.
Sur le dernier, j'ai quand même perdu 12 kilos.
Et un projet d'un nouveau film ?
Et oui, j'espère tourner bientôt, puisque là j'ai eu l'avance, alors il faut que je trouve tout le complément de financement, parce que c'est une vraie usine à gaz, maintenant de faire des films. Et le film s'appelle Neuf Doigts.
C'est en travail alors ?
Oui, le scénario est écrit, et maintenant il faut trouver les sous.
Parfois, entre les films, il y a la nécessité de revenir au primitif, au cinéma premier, comme Silencio, par exemple.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été... Parce que j'ai vraiment eu j'ai toujours eu, disons, des incidents de parcours après les films. C'est-à-dire que j'arrivais plus à tourner, et donc c'est comme ça que j'ai fait un film tous les 7 ans. Et puis, disons, de 98 à 2006, et puis on m'a proposé un tout petit film... au Portugal, mais je suis parti juste avec un jeune opérateur, Elvire, et une vieille caméra à tonne. On a fait ce film, donc en muet. Et ensuite, d'ailleurs, il y a eu un miracle de rencontre entre ce film et Sorbing Russell. J'ai retaillé, mais c'était super avec Hamburger Lady donc la bande son est de Sorbing Russell, donc je suis vraiment revenu aux premières amours, oui, pour ce film.
Un film en noir et blanc, un gris magnifique, une lumière qui vient parfois éblouir fortement. Quoi, c'est l'endroit de la poésie aussi, cette lumière.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de j'appelle ça un documentaire affectif. C'est-à-dire que ça faisait 15 ans que j'étais parvenu au Portugal. Et puis, c'était l'occasion de filmer un peu Elvire. Et donc, de tourner aussi des hors-champs. Parce que pour Les Chiennes, j'avais tourné dans différents sites où j'avais visité des lieux, mais que j'avais pas pu exploiter du fait de l'argument de science-fiction, si on peut dire, du film. Et donc on a tourné en noir et blanc, en 16, et en même temps j'étais obsédé par cette idée de... comment ça s'appelle, le concept d'aube mélancolique, inventé par Murnau, qui consiste à tourner l'aube au crépuscule, et qui marche qu'en noir et blanc, puisqu'en fait c'est les mêmes valeurs, en diaph. Mais c'est vrai que ça fait une aube, mais absolument à vomir, enfin, totalement dépressive. Et donc le film est tourné au début du jour et à la fin du jour. Et comme ça, il y a une espèce de dialectique.
C'est un triptyque du paysage. Trois magnifiques courts-métrages, Silencio, Ciel éteint et Vladivostok. On peut le trouver dans ce coffret, dans ce DVD avec Darmagens, qui est édité par Agnès B. DVD, c'est cela.
Voilà, Potemkin, Agnès B., voilà.
On peut aussi trouver un très très beau coffret avec l'affaire des divisions Morituri, le trésor des îles Chiennes et Docteur Chance. Un autre coffret pareil, Agnès B, DVD et Potemkin. Ce livre, ce dernier livre, Mercure insolent à la fabrique du sens, à la fois un journal, des notes sur le cinéma, de la poésie active.
J'ai fait comme j'ai pu pour essayer de cerner la question. En fait, oui, c'est une petite collection qui a été un peu éphémère chez Armand Collin.
Merci à FJ Ossan de tenir ce cinéma rock, punk, insurrectionnel, à la fois poétique et de critique. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Vous étiez venu ici dans le cadre du 100 ans de William Burroughs, invité par Alpha Beville, qui propose tout un cycle autour de William Burroughs. Et pour plus d'informations, un site internet www.alphabeville.org.
Feu! Je paie pour vous, vous que j'aime tant. Je paie pour vos crimes, je paie pour vos vices, saloperies, souillures, compromissions petites et grandes, pour votre bassesse, votre méchanceté, votre ignorance, votre paresse, votre saleté, vos pustules, abcès, varices, goitres, vos merdes mal calibrées, vos scribes vivant par procuration. Je paie, paie. Et la note est salée.
Sur les ondes de Radio Grenouille, le cycle Bruce se donne aussi à entendre. Plus d'informations sur www.radiogrenouille.com. À la réalisation de cette émission, Jean-Baptiste.
L'ange rédempteur. C'est ainsi que John Simmons Ritchie, Sid Vicious, Ex-Flowers of Romance, se larder la peau à coups de rasoir. C'est ainsi que James Osterberg, Iggy Pop, encore un chanteur de rock, rampé sur des tessons, se flagellait à coups de ceinturon. Acteur de théâtre, il jouait la tragédie jusqu'au bout. Il se poignardait vraiment, puis désinfectait ses plaies dans le sel de l'océan. Et tant d'autres facéties, vraies ou fausses, qu'importe. Il est Mimi, docteur Misère. Mais pourquoi privilégier ces deux figures de la mythologie rock'n'rollienne? Pourquoi participer à cette grande mystification qui consiste à fabriquer des idoles pour mieux bêtifier le bon peuple, renforcer le spectacle organisé?
Chouette, chouette, indirect.
Le 13-30, un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure.
Radio Grenouille, en direct, en direct.
À 13h30.
88.8 FM.
Nous écoutez à volonté, radiogrenouille.com. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.